Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Sylvain.
Bonjour Sylviane.
Plongé dans ce nouveau programme, nous allons parler aujourd'hui des sorties du 17 janvier et du 24 janvier. Mais d'abord, c'est moi qui choisis, n'est-ce pas ?
Votre mission, Sylviane.
Je veux absolument inciter nos auditeurs et vos spectateurs à venir voir la séance de rattrapage Les Colons, samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche 21 janvier à 17h45. Je trouve que c'est un film qu'il ne faut pas rater.
Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les deux fois le même film. Hein,
donc. Ça dépend si on n'a pas tout compris. Parce que moi, je me suis posé certaines questions.
Oui, je sais, nous venons d'en parler. Alors, c'est vrai que le lieutenant McClellan, c'est un soldat britannique et l'autre, c'est un mercenaire américain.
Donc, voilà, donc on a... voilà.
Mais
c'est un film magnifique, Dans la Terre de Feu. Moi, je le trouve magnifique du point de vue cinéma, du point de vue paysage, la terre vierge, la terre de feu. D'ailleurs, il y a un personnage qui dit « Qu'est-ce qu'on fait là, trois personnes, dans une terre où il n'y a personne, où il n'y a rien
hein ?» c'est la réinvention quasiment permanente du western. C'est-à-dire qu'on a été habitué à ce que le western soit simplement l'ouest américain, états-unien, et plus des cow-boys
et des
vilains indiens, entre guillemets. On s'aperçoit que... La colonisation, qu'elle soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, ça a toujours été la même. Et c'est-à-dire que c'est les peuples autochtones qui étaient là avant, les descendants des Européens qui ont été massacrés. Le film parle de ça et je trouve que effectivement, je suis d'accord avec vous.
Elle est
extraordinaire au niveau de la forme. Surtout qu'en plus, vous avez remarqué, c'est une image à l'américaine, à l'ancienne, un format ce qu'on appelle le standard, presque carré sur l'écran, et ça donne d'autant plus de profondeur au geste humain que le personnage est, même dans ce format restreint volontairement et pas comme un grand format scope dans les westerns, le paysage et la grandeur des pays sont tellement vastes que même avec ce format-là, on se concentre du coup sur l'humain et c'est catastrophique pour l'humain.
Ah oui, il y a des exemples de comportements absolument épouvantables.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est un grand film.
C'est un très grand film. Et puis la scène de la fin, c'est un bijou, quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on comprend tous, en beaucoup de paroles, ce sont des gens très introvertis qui parlent peu, mais on comprend l'histoire, la colonisation, tout. Donc voilà, vous avez deux séances de rattrapage. Vous pouvez venir voir les deux. Je vois qu'il y a trois autres séances de rattrapage. La fille de son père, le théorème de Marguerite, Anatomie d'une chute, qui fait et qui rafle tout.
Anatomie d'une chute, on devait... J'avais dit, c'est bon, on a fait je sais pas combien de séances de rattrapage, une par mois depuis le mois d'octobre, parce que le film est sorti fin août quand même. Mais en plus là, juste au moment où je fais les horaires, bing, il y a les deux Golden Globes qui tombent. Donc je me dis, allez, j'essaie d'en trouver une... Peut-être une petite dernière, mais on verra.
Oui, non, mais là aussi, c'est un film excessivement intéressant. Alors, comme on est dans les films qui sont déjà passés, il y a Priscilla, qui est jusqu'au 6 février. Moi, ça ne me tente pas trop, Priscilla. Vous l'avez vu, ça vous avez bien aimé.
Moi, je trouve que... Alors, Priscilla, on sait ce qu'on va voir. Hein, c'est du Sofia Coppola. Donc, c'est extrêmement précis au niveau cinéma. C'est un cinéma de composition d'images. Moi, j'apprécie. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est... Elle arrive quand même à raconter une histoire d'un personnage qui a réussi à se sortir d'un homme de
d'une
poids,
emprise,
d'un homme, d'une emprise. Mais en même temps, Elvis Presley ne passe pas pour un salaud fini parce que... ils sont connus, ils avaient 10 ans d'écart, elle avait 14 ans, lui 24. Il attend qu'elle ait sa majorité, 16 ans, pour consommer, entre guillemets, l'union, sans vouloir être vulgaire ni rien du tout. Mais c'est vrai qu'il a besoin d'une femme pour le rassurer et d'être un pot de fleurs à la maison. Et elle arrive à s'en sortir. Donc
je trouve que une femme au foyer, j'ai trouvé
voilà. Et je trouve que voilà, une femme au foyer qui dit trop rien, qui a envie de faire ses petites amourettes quand il part en tournée ou qui va en tournage de film avec elle. Voilà, et occupe-toi de ma fille et puis voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même c'est tiré d'un livre écrit par Priscilla Presley.
Ouais.
Donc c'est quand même assez extrêmement autobiographique. Mmh. Et surtout qu'on parle de Presley, d'Elvis et de sa femme, et il n'y a pas une musique d'Elvis Presley.
Ah,
parce qu'elle n'a pas eu accès, les ayants droit n'ont pas donné accès aux musiques d'Elvis Presley.
Parce qu'elle n'a pas eu le droit, elle.
Non, parce que c'est pas elle qui a écrit la musique des. Elle est la femme d'eux. Et puis dans la mesure où elle a divorcé, après je ne sais pas si un contrat de mariage, ça me regarde pas, mais vu comme on voit, comme Elvis Presley lui est en colère après ce qu'il appelle le colonel qui lui détourne de sa musique, mais surtout on s'aperçoit que ce gamin-là, même quand il fait l'armée dans les années 60 en Allemagne, il est déjà drogué. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il prend des cachets, il se couche le soir, il prend des cachets pour dormir. Donc il est sous amphétamine, et quand on connaît la fin de la carrière d'Elvis,
son poids,
c'est tout ça, et voilà. Donc c'est la manière dont il est mort lamentablement tout seul sur son trône, comme on dit, voilà. Cinématographiquement, c'est un film intéressant.
Je vais vous écouter. Je vous ai écouté aussi Si seulement je pouvais hiberner, qui a beaucoup de succès.
Hein. Ah, ça, c'est magnifique. Ouais. C'est un super, super, super petit film. Alors, petit film, pas dans ce qu'il raconte, mais petit film parce que ça parle d'un pays qu'on ne connaît pas beaucoup, la Mongolie. On a l'impression qu'on est dans les clichés, entre guillemets, de ces grandes steppes, tout ça. Et ces grands paysages où il y avait énormément de nomades, parce que la population qui élevait des moutons, des yaks et tout ça, était une population nomade, que maintenant le pays est en train de se vendre aux industries minières, et que le pays est cloisonné, donc il y a des barrières, un petit peu comme en Amérique latine, ça rejoint les colons.
Ouais.
Et ce pays est fracturé, donc les gens n'arrivent plus à vivre de sur autant, et comme dans tous les réflexes, dans tous les pays pauvres, les gens s'agglutinent dans les capitales en espérant avoir du travail. Et là, c'est l'histoire d'une famille dont la mère est portée sur la bouteille. Et le père est décédé, je ne me rappelle plus très bien pourquoi, si c'était une maladie. Et donc, voilà. Et les enfants se débrouillent, notamment le fils aîné qui est brillantissime, se débrouille pour essayer de sauver les baraques. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des
bons films à voir.
Non, mais ça fait partie de l'avantage du cinéma, c'est-à-dire qu'on va découvrir une civilisation qu'on connaît peu, des habitudes qui sont différentes, et ça fait du bien.
Du Chili à la Mongolie. Et on revient en France avec Bonnard, Pierre et Marthe. Alors, je ne l'ai pas vu, je vais aller le voir une fois qu'on aura fini l'émission. D'ailleurs, j'aime beaucoup moi les Bonnard, mais j'aime beaucoup aussi les deux acteurs. Vincent Macaigne et Cécile de France. J'ai vu aussi certaines mauvaises critiques disant que c'était très classique, mais je vais tout de même aller le voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du Bonnard?
C'est effectivement très classique, parce que le réalisateur Martin Provost, qui avait fait le formidable rôle avec aidez-moi Sylviane, avec Yolande Moreau, Séraphine, on y arrive. Alors il a pas voulu être catalogué, parce qu'il, je dis ça en souriant, parce qu'il est venu présenter son film en avant-première. On en a beaucoup parlé. Il disait qu'il avait refusé le film
parce qu'il dit j'ai pas
envie d'être le gars qui fait le film sur les peintres. Et puis après, bon, ça c'est la manière. Je trouve que moi, ce qui est le plus original, c'est qu'on parle de Bonnard. Bonnard, c'est quand même lui, Pierre, qui est plus connu, et on s'aperçoit quand on voit le film
sans sa femme, il n'aurait pas réussi.
Et surtout, c'est les interprétations différentes de sa femme dans la peinture. C'est ça qui est intéressant. Je vous donne un élément. Il y a quasiment, je crois, 60% des tableaux de Pierre Bonnard où il y a des femmes qui apparaissent. Ce sont différentes interprétations, mais qui sont sa femme.
Sa femme,
qui est Marthe. Donc voilà. En plus, c'est vrai que c'est un film qui est assez bien réalisé, parce qu'il sait effectivement tenir une caméra, Martin Provost. Deux acteurs qu'on aime bien, Vincent Macaigne et Cécile de France. Donc c'est effectivement sans trop de surprises. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu un autre film sur un peintre, c'était Munch.
Oui, j'allais en parler, Munch. Là où il fallait vraiment comprendre la complexité.
Voilà,
hein.
Voilà, là, il y avait un vrai...
Un parti pris déstabilisant.
Un parti pris de cinéaste, qu'on pouvait apprécier ou pas. C'était de donner quatre périodes différentes de ce peintre avec quatre acteurs différents. Mmh. Là, c'est complètement... On est sur une histoire plus linéaire, plus traditionnelle.
Puis moi, je pense aussi au film de Wim Wenders sur Anselme, qui était vraiment extraordinaire, quoi, et qui était une interprétation qui était vraiment très, très bien. Donc, Bonnard.
Oui, mais vous parlez de Wim Wenders, c'est quand même un des plus grands cinéastes mondiaux. Donc, effectivement, il n'y a pas que... heureusement... qu'on ne passe pas que des films de Wim Wenders, sinon,
ou
des gens de cette qualité, on ne serait pas ouvert souvent, en tous les cas.
Non, mais c'est là où on voit vraiment l'ampleur du travail, et puis il y a des gens plus jeunes, il y a tout dans le cinéma, il faut faire confiance.
Il faut faire confiance, et puis je trouve que de faire en 2023, enfin 24 maintenant, un film... qui rétablit une certaine vérité historique sur le rôle de la femme d'artiste, c'est quand même important.
C'est dans le courant actuel.
Dans le courant, je ne sais pas si il a voulu le faire parce que c'était à la mode, entre guillemets. Je pense que c'est jamais à la mode de remettre les femmes dans leur juste situation, c'est-à-dire l'égalité de l'homme. Et puis voilà. Et donc, quand on a ça assez régulièrement au cinéma, cette notion-là qui est. Et je trouve quand c'est un homme et que ça vient régulièrement, ça montre que souvent on dit que les artistes quelquefois sont un peu en avance et montrent le chemin. Et j'espère qu'on y va droit. Et si la semaine prochaine il y a encore un film qui fait avancer ce débat-là, c'est-à-dire qui revendique qu'il n'y a pas une place de numéro 1 et numéro 2, c'est une égalité parfaite entre le traitement des gens, quel que soit le genre, de la religion, tout ce qu'on peut dire, je serais content d'en parler à ce micro. Donc que les choses soient aussi dans leur sens, un petit peu en dehors de savoir si le film est bien photographié, bien si l'actrice ou là, il y a quand même un message aussi dans le film, c'est le positionnement de la femme.
Cécile de France doit, enfin dans la bande-annonce, j'ai vu elle a une force, elle a une puissance.
Et puis Martin a raconté que Cécile de France, elle s'est battue bec et ongle pour voir ce rôle, alors qu'elle n'est pas, je veux dire, elle était plus âgée que le rôle de Marthe, donc le premier rendez-vous, il a tout de suite dit, il a dit, c'est elle obligatoirement. Donc,
dès la bande-annonce, on entend sa voix, sa voix. Écoute, je propose qu'on écoute la bande-annonce, puisqu'on vient d'en parler.
Si vous voulez devenir un modèle,
J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
Je sais même pas ton nom.
Marthe. Et toi ?
Pierre. Tu veux vivre avec moi ? Ce sont mes amis, les Nabis, Serruzier, Signac, Puyard. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne.
Rien que ça.
Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestre à la campagne quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous.
Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe ?
Je suis inquiète.
Inquiète de quoi ?
Pierre me trompe.
Alors l'indolente, c'est vous ? Votre mari a fait de vous un mythe, madame.
Un mythe ? Un jour, je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais.
Je veux pas passer de toi, je veux pas.
Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé.
Je fais souvent ce rêve. D'une femme inconnue. Que j'aime et qui m'aime.
Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe.
Car elle me comprend. Et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule.
Alors Jean-Sylvain, on a parlé de choses qui sont déjà passées, qui sont en rattrapage,
sont
toujours
en cours,
à la fille.
Voilà.
Mais là, le 17 janvier, il y a trois sorties et vous avez vu tous les trois.
Eh oui.
La tête froide, Pauvre créature, Stella, une vie allemande.
Voilà.
Vous parlez des trois ?
On parle des trois. Je parle en premier de Stella Nivialamand parce que c'est peut-être le film le plus compliqué à comprendre pour nous autres Français. Oui. C'est l'histoire d'une femme qui traverse l'Allemagne nazie en étant artiste et juive et qui effectivement fait des choses qui sont un peu répréhensibles, c'est-à-dire qu'elle est à la fois
elle
utilise son corps, elle dénonce ses compagnons pour traverser cette tourmente qui était le nazisme. Donc
Elle a existé, c'était la gauche.
Moi je pense que en tant que Français on n'a pas
de leçons à donner
à personne, parce qu'en termes de collaboration on a quand même été assez fort, mais je trouve que c'est encore une fois c'est intéressant, c'est-à-dire que d'une période pas facile, l'Allemagne nous sort tous les ans, tous les deux ans, un ou deux films qui traitent de ce sujet et qui, les Allemands, j'ai l'impression, font plus confiance aux Français sur la puissance du cinéma.
Du cinéma.
Par exemple, on a très peu de films qui sont sur la guerre d'Algérie, on a très peu de films sur la Commune de Paris. Les Allemands essayent. Alors le film n'est pas formidable à tous les niveaux, mais au moins il a l'avantage d'exister et de prendre en compte un certain nombre de problèmes qui sont pas loin de chez nous. Je veux dire, l'Allemagne, c'est à...
Et ça me fait penser, je suis en train de lire le livre de Pierre Assouline sur Nakash le nageur qui a été déporté juif, dénoncé par un autre nageur français. Qu'il souillait les piscines. Donc vous voyez, ça pourrait très bien être un film sur la France.
Puis on parlait de Cécile de France tout à l'heure, l'actrice Paula Beer, elle tient. Donc effectivement, c'est une victime de l'époque qui est coupable à son tour. Donc, c'est compliqué.
Oui, mais les choses. Ça pose bien la question. Et puis souvent, on sait beaucoup de gens dénoncer aussi parce qu'on les menaçait de tuer toute leur famille. La tête froide.
Alors la tête froide, c'est un film français qui a l'avantage de parler de sujets de société, c'est-à-dire que c'est une histoire d'une jeune fille qui est en galère et qui trafique des cigarettes entre la France et l'Italie. Et puis qui finit par vouloir avoir besoin de sous pour récupérer un peu la garde de sa fille et tout ça. Et qui trafique des êtres humains qui ont besoin de passer la frontière. Donc ça se fait aussi, on pourrait mettre exactement le même sous-titre que pour le film de Stella, Victime et coupable, c'est-à-dire qu'elle est... Le film est totalement porté par Florence Loreikal, qui est du début à la fin. Donc c'est toute cette fiction... d'une partie du cinéma qui se sert d'un problème de société. On parlait à l'instant du fait que le cinéma français n'aborde pas certains sujets. Là, en tous les cas, les cinéastes, régulièrement, une fois tous les ans, enfin plusieurs fois par an, il y a ce sujet de l'immigration qui est abordé.
Et pauvre créature, pluriel.
Alors, pauvre créature, alors ça, là, c'est à mon avis, le film du mois qui va réconcilier... Hollywood, Paris et l'Irlande, c'est le film qui a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. C'est un film de Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur avec qui on devait The Lobster, vous rappelez, si vous rappelez. Voilà, c'est un gars qui est anglais ou anglo-irlandais, je ne sais pas bien, même s'il a un nom grec. Et là, il a fait un film, on est entre Frankenstein et les Monty Python.
Donc voilà, c'est une histoire complètement... Parce que là, on vient de parler de deux films un peu lourds, un peu tristes, donc là, on rit.
Voilà,
et vous avez aimé ?
Ah oui, j'ai adoré. C'est une histoire complètement délirante,
loufoque,
avec des acteurs, Emma Stone qui joue le rôle titre, qui est formidable.
En brune.
Voilà, William Dafoe qui joue le rôle de son père concepteur, c'est le Frankenstein de l'affaire. Marc Ruffalo, le bel avocat que la belle jeune suit. Donc c'est brillantissime du début à la fin. C'est un vrai régal, vrai régal.
Ben écoutez, on va y aller, on va vous écouter. Alors on passe aux sorties du 24 janvier. Il y a quatre films, vous en avez vu deux. Donc il y a Captive, le dernier des Juifs, May December, Vivre avec les loups. Vous avez vu le dernier des Juifs et Vivre avec les loups. Je vous propose qu'on Non, vous préférez parler du dernier des Juifs
comme
d'abord.
Vous voulez. Oui, on peut commencer par le dernier Juif. Alors c'est vrai que le titre pourrait être d'actualité. Le dernier des Juifs, c'est un film très intimiste, une relation entre une mère de famille qui est interprétée par Agnès Jaoui et son jeune fils qui a pas du tout envie de grandir,
qui reste avec maman.
Qui reste avec maman et.
C'est la porte. Hein, voilà.
Et Agnès Jaoui est malade et il y a un combat entre elles, entre le fait de garder son fils avec elle et puis de le quand même qu'il essaye de quitter le foyer. Oui. Et donc c'est toute la relation mère-juive-enfant.
C'est un peu pas trop caricatural, mère-juive, un petit peu.
Un petit peu, mais il y a des moments rigolos, il y a des moments de tendresse.
Oui, puis pour Agnès Jaoui, voilà. Michael
Zendel, le jeune acteur, est sympa comme tout. Voilà. Donc c'est un petit film, entre guillemets, sympa. Sur
ne
la,
pas se
voilà.
laisser mais, abuser par le, par voilà, le, par le titre.
Le dernier juif, ça n'a rien à voir avec la malheureuse situation actuelle au Proche-Orient.
Alors, je sais que vous êtes enthousiaste pour vivre avec les loups, donc je vous propose qu'on écoute la bande-annonce.
Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant, je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif, et là c'est la dernière meute installée, c'est celle-là que je suis.
Belle trace.
Ça fait 30 ans que les loups sont revenus, et pourtant très peu de monde se prépare à leur retour.
Il y a un loup. Il y en a 2. Hé hey !
Il faut tuer le loup, éradiquer le loup.
On ne se défait pas facilement de plusieurs siècles d'une culture de diabolisation de la nature.
Dans la vallée, c'est le sujet tabou, hein. Tu vas te fâcher à cause du loup. Hein.
Pour moi, le retour du loup, c'était un truc magique. Mais c'est pas magique pour tout le monde.
Quand tu gardes un troupeau, tu deviens part de ce troupeau, presque.
Les chiens, ils limitent la casse, c'est sûr. Mais c'est loin d'être si facile, quoi.
Toi, tu étais au bout.
Ah oui, c'était au bout du monde. Moi, j'étais prêt à vouloir descendre de montagne.
J'ai l'impression que le chasseur dit « Ouais, le loup, il nous mange nos chamois, il nous mange nos chevreux. »
Mais après tout, c'est pas plus à nous qu'à lui.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout tuer, on n'y arrivera plus. Il va falloir qu'on vive ensemble.
Dans les Abruzzes, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des cerfs. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous abordons donc le dernier film d'aujourd'hui qui sort le 24 janvier, Vivre avec les loups, dont on vient d'écouter donc la bande-annonce. Et Jean-Sylvain, vous avez beaucoup aimé.
J'aime beaucoup ce réalisateur, j'aime beaucoup son travail. Jean-Michel Bertrand, c'est la fin d'une trilogie. Il a toujours dit qu'il ferait une trilogie sur les loups. Il a commencé par La Vallée des loups, Marche avec les loups, et maintenant c'est donc Vivre avec les loups, et c'est un réalisateur qui a un concept, c'est-à-dire qu'il met des caméras fixes à déclenchement quand il y a des animaux qui passent, notamment la nuit, et donc il a passé des heures et des heures en guet comme ça, et là il s'est construit une petite cabane dans le coin où il est, et il va à la rencontre, c'est la première fois qu'il s'ouvre à d'autres personnes qui travaillent autour du loup. Mmh. Et je trouve que la démarche qu'il a de dire, de toute manière, le loup revient parce que la nature le permet, et c'est pas à l'homme de dire si le loup doit être à sa place ou pas. Le loup prend sa place. Le loup s'autorégule. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place pour une mère louve qui a 2 ou 3 enfants, la mère les petits ne survivent pas, ça se régule automatiquement. C'est-à-dire que si dans le territoire, parce qu'ils ont quand même des territoires assez grands, les loups, et puis ils sont pas tout seuls, il y a des lynx, il y a les hommes, il y a beaucoup de choses, et donc c'est vraiment un documentaire qui fait parler de l'intelligence. Mmh. C'est-à-dire que on sait très bien que la situation du loup pour les éleveurs, c'est extrêmement complexe.
Oui, j'allais dire, les éleveurs ne sont pas les amis des loups.
Et c'est abordé dans le film de manière extrêmement intelligente, avec tout ce qu'on peut mettre en place pour aider ces éleveurs, le fait qu'ils en ont ras-le-bol de se protéger avec des barrières, des chiens, tout ça, mais que ça devient aussi inexorable et que c'est un bon signe pour les forêts, pour la nature, que les animaux comme ça, les prédateurs reviennent, c'est-à-dire qu'ils se sentent en confiance et voilà. Donc c'est un film d'une extrême intelligence, je trouve. C'est absolument à montrer
à des
ados, aux gens qui s'intéressent à la nature, qui s'interrogent sur la nature. Voilà. Et Jean-Michel Bertrand, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à deux reprises.
C'est un
garçon exceptionnel et qui vraiment. Ça fait avancer le débat sur le loup. Et ça, je trouve que ça, c'est bien.
Oui, ne pas se limiter à des positions pour, contre, etc.
Et en disant que c'est effectivement difficile et qu'on peut comprendre qu'un éleveur pète les plombs et qu'il prenne son fusil et qu'il tire sur un loup parce que c'est invivable quand on se lève le matin et qu'on voit 15 ou 20 brebis égorgés.
Merci Jean-Sylvain. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. L'autre jour, là, un film pour le flamenco. Là, je vois qu'il y a deux films pour le Festival de la biographie. Il y a aussi un film avec les amis du Prolé, un film avec le Cinéclub italien de Saint-Denis-là. Continuez vos partenariats.
Un film avec SOS Méditerranée, Le Moi Capitaine. Oui, il y a beaucoup de choses. Les infos sur le.
D'accord.
Dans notre programme qui démarre.
Le nouveau programme qui démarre mercredi.
Aujourd'hui,
c'est diffusé aujourd'hui. Et merci de vos conseils et à bientôt.
À bientôt, Sylvia. Merci.
Alliance Plus.